Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro en direct du Buzz TV de TV Magazine. Nous sommes partis pour une demi-heure de direct et d'interaction avec un comédien si prolifique qu'il faudrait une matinée entière pour citer toutes les œuvres auxquelles il a apporté son talent. Il faut dire que son répertoire est très vaste, des mythiques fourberies de Scapin, de Molière à lui, de Guillaume Canet en passant par le cultissime Kaamelott d'Alexandre Astier. Souvenez-vous, il est l'un des rares comédiens français qui brille à la fois au théâtre, dans les salles obscures et sur le petit écran. Et cette fois-ci, c'est bien à la télévision qu'il revient pour interpréter l'un des hommes les plus détestés de France. Bonjour Patrick Chenet.
Bonjour.
Bienvenue sur le plateau du Buzz TV.
Merci.
C'est un plaisir de vous recevoir. France 3 diffuse le téléfilm intitulé Laval, le collaborateur. C'est ce mardi en première partie de soirée que ça se passe. Une fiction dans laquelle vous endossez le rôle principal. Pierre Laval, ancien membre de la SFIO, vice-président du Conseil des ministres, puis chef du gouvernement lors du régime de Vichy instauré par le maréchal Pétain. Qu'est-ce qui vous a donc pris de jouer l'un des hommes les plus détestés de France? Et sans doute d'ailleurs les plus détestables.
Bah, justement, parce que c'était un des hommes les plus détestés. C'est toujours excitant pour un acteur d'incarner un des types qui était le salaud national. Ouais. Le salaud national, Pierre Lenoir, on l'appelait, côté sombre. Et puis, le type qui était le plus haï de France et qui était, d'après certains, le mal absolu. Ouais. Donc c'est intéressant pour un acteur de voir ce qui se passe vraiment. Et évidemment, quand on se penche sur la carrière politique et privée de Pierre Laval et de son aventure, entre guillemets, pendant la dernière guerre, sa collaboration avec le régime nazi, c'est très complexe, c'est très étrange, c'est très...
Tout n'est pas blanc et tout n'est pas noir, c'est un peu l'objet et la morale de ce téléfilm.
C'est ce qui fait la force, c'est une tragédie. La tragédie, c'est quand les positions s'affrontent, mais chacun a un point de vue. Bon, là ce qu'il a... Je veux dire, la politique qu'il a menée, c'était monstrueux. Le mec, il l'était pas.
Bien sûr.
Le mec, c'était un type... Qui aimait bien le pouvoir, comme tous les politiques. Et là, il avait été ministre de l'Intérieur, des Affaires étrangères, président du Conseil. Mmh. Il était parti de l'ultra-gauche, il était anarcho-syndicaliste, puis petit à petit, il est arrivé jusqu'au... Et il disait que... Il pensait qu'il était l'homme providentiel, qu'il était le seul à pouvoir sortir la France de ce bourbier, de ce merdier, et que voilà, De Gaulle avait fait un choix. Il aimait bien De Gaulle. Il disait qu'il avait fait un choix qui avait de la gueule.
Il disait qu'il y avait deux politiques valables, celle de De Gaulle et la sienne.
Et la sienne, que De Gaulle allait dans le mur, que ça ne marcherait pas, que lui, on allait voir ce qu'on allait voir.
Et pourtant, vous le savez, Patrick Chenet, encore en 2021, la collaboration avec l'Allemagne nazie reste encore l'objet de nombreuses crispations. C'est un sujet très sensible de notre histoire. Est-ce que quand on vous propose ce rôle, vous tournez cette fois votre crayon dans votre main avant de le signer, ou bien vous y allez tout de suite parce que vous dites justement...
Non, j'y vais tout de suite parce que, si vous voulez, il faut savoir que Laval n'était pas... si vous voulez, quand on parle de Laval sans savoir exactement, c'est le monstre, c'est le diable absolu, c'est le couteau entre les dents, c'est un psychopathe dangereux, c'est un mec haïssable.
Il ne s'est pas opposé à la déportation des Juifs, par exemple.
Mais de toute façon, tout ce qu'il a fait, c'est-à-dire que le fait d'inventer le mot collaboration, de collaborer avec les nazis, ce qui lui semblait la seule solution pour pouvoir sortir de ce bourbier dans lequel était la France après la débâcle, voilà. Donc c'était un type, si vous voulez, qui essayait de son point de vue de faire, même si ce qu'il a fait, la RAF du Veldiv, la milice, le service du travail obligatoire, il a même dit « je souhaite la victoire à l'Allemagne ». Ça a eu du mal à passer aussi, entre autres. Mais il a toujours revendiqué ça. Ce qui l'intéressait, lui, il disait, alors il était un peu, c'était un maquignon auvergnat, il venait du peuple, même s'il n'était pas pauvre, il aimait bien avoir ses potes ouvriers, paysans, tout ça, et qui buvaient des coups, quoi. C'était ça, son truc. Il aimait bien ça, il aimait bien ce contact avec les gens du peuple. Et il disait, je vais conduire le troupeau. Alors, il était aussi un peu vulgaire, il était plein de choses, il était mythomane, il était mégalomane, mais il avait de la conviction. Donc pour un acteur, c'est quand même un terrain de jeu incroyable, très très excitant.
Et vous l'exploitez à merveille, on va y revenir dans quelques instants. Je rappelle que nous sommes en direct sur Figaro Live, sur la page YouTube de TV Magazine et sur le figaro.fr. Vous pouvez poser toutes vos questions à Patrick Chenet. Quel regard portez-vous justement sur toutes ces fictions en lien avec l'histoire de France? Dans quel registre préférez-vous Patrick Chenet? Dans le drame, dans la comédie? Il fait des deux. Vous pouvez lui poser toutes vos questions. On y revient juste après les news médias de Sarah Lecoeur. Salut Sarah.
Bonjour Damien.
Allez, bah c'est parti avec les audiences d'hier soir. Quelle chaîne est arrivée en tête ?
Eh bien, c'est M6, grâce à L'amour est dans le pré. La suite de la saison, toujours animée par Karine Lemarchand, a attiré 4 200 000 fidèles, soit 21,6% du public. En une semaine, la chaîne gagne 200 000 téléspectateurs et près de 3 points de part de marché. La chaîne est devant TF1, qui, elle, proposait un téléfilm. Il et elle, c'était porté par Odile Vuillemin notamment. Ça a attiré 3 100 000 fidèles et 15% de part de marché. Quant à France 2, la chaîne est troisième, comme un coup de tonnerre, fiction avec Grégory Montel.
Et Patrick Chenet.
Et vous-même.
Mais oui, vous étiez hier à la télévision.
Vous êtes arrivé troisième, 1 800 000 personnes et 8,3% de part d'audience. Et terminons du côté de la TNT, TMC, est leader grâce au troisième volet de Men in Black, 1 million de cinéphiles et 5% du public.
Vous êtes le lundi à la télévision, le mardi à la télévision. En même temps, on vous retrouvera sur scène au théâtre.
Le reste de la semaine au théâtre.
Vous n'en avez pas marre.
Et la journée au cinéma.
Et la journée au cinéma, c'est ça, exactement. Mais vous ne vous arrêtez pas.
Et puis, je réponds à quelques interviews télévisuelles.
Au milieu.
Qu'est-ce qui anime encore Patrick Chenet ? Qu'est-ce qui vous donne encore souvent cette force de continuer ? Vous êtes absolument partout, Patrick Chenet, hein, mais depuis des années. Hein, c'est
ouais,
pas,
non, ce qu'il y a, c'est que vous savez, c'est une aventure. La vie est une aventure et la vie artistique encore plus. Faire des films, jouer dans des pièces, répondre à des émissions de télévision, c'est des aventures, c'est jamais pareil, même si on a de l'expérience, c'est toujours... Donc ça permet de, je sais pas, d'avoir une espèce d'existence privilégiée, et c'est jamais la même chose, il se passe toujours des trucs différents, même la création artistique, jouer des personnages, incarner des personnages dans des fictions, avec des partenaires différents, dans des zones géographiques très diverses, Ça étourdit, quoi.
Et vous n'avez jamais eu envie de lever le pied ? Vous n'avez jamais eu envie, cette envie de faire une petite pause et vous dire, bon, allez, on arrête un petit peu.
Bah, pendant le Covid, oui, d'abord j'ai eu le Covid.
Ah, alors
déjà, c'était une grosse pause.
Ouais.
Et puis après, alors, les tournages ont repris, mais il y a quand même eu quelques mois où, oui, il ne se passait rien. Hein,
vous en êtes facilement remis du Covid ?
Oui, oui. Ouais. Pourquoi ? Ça ne se voit pas ?
Ah, ça se voit très bien. Vous avez une belle mine.
Je n'aime pas tellement votre question.
Non, mais il existe des Covid longs, vous savez.
Oui, oui, je sais, mais pas moi. J'ai un Covid court. Intense, mais court.
Tant mieux, bon, on vous le souhaite. Bon,
et j'en ai profité pendant ces quelques mois pour écrire 2 scénarios et 1 livre.
Ah, vous avez écrit 2 scénarios et 1 livre qui sera publié quand
le livre, il sera publié fin juin.
Et c'est quoi ? C'est
Lettre d'excuse.
Lettre d'excuse, vous excusez à qui ?
Je m'excuse tout le monde.
Tout le monde. Mais vous avez
J'excuse des personnes, de ma famille ou des partenaires ou des gens que j'aime bien. Je m'excuse auprès d'eux. Et je m'excuse aussi sur des concepts. Je m'excuse auprès de ma jeunesse, de ma vieillesse, de ma santé, de l'ennui, de tout ça.
Parce que vous avez fait des choses dont vous n'êtes pas forcément fier ? Vous avez
besoin c'est une façon de me la péter.
Ah, d'accord.
Je lettre d'excuse, en fait, ça n'est pas du tout.
Bon, on a hâte de découvrir ça. Et vous m'avez un peu mis l'eau à la bouche avec ces 2 scénarios aussi.
Ouais.
C'est quoi ces 2 scénarios ? C'est pour la télé, pour le cinéma,
C'est pour le cinéma. Ouais. Pour le moment, oui, j'ai trouvé un producteur, mais il faut encore le financer, mais c'est en bonne voie, je crois.
Une comédie, un drame ?
Un peu les deux, mais c'est mon fonds de commerce, moi, les deux.
Vous faites un peu des deux, effectivement. Ouais. Bon, allez, on poursuit avec toute autre chose. On l'a appris hier, Harry Habitant, l'acteur a été placé en garde à vue.
Oui, on l'a appris hier soir. Le comédien a été entendu par la police judiciaire de Paris après une plainte pour viol. Alors, la potentielle victime n'est pas sa compagne, mais une femme avec laquelle il entretient des relations intimes, a précisé au Figaro une source proche du dossier. Les faits se seraient produits samedi, et c'est le jour même, d'ailleurs, de la plainte de la femme. Alors, il faut rappeler que l'acteur de 47 ans est notamment connu en France pour ses rôles dans « Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu ?», bien sûr, « Les visiteurs 3 » ou encore « Coco ».
Alors, on assiste, Patrick Chenet, depuis maintenant de nombreuses années, à un vaste mouvement de la libération de la parole des femmes, qui est d'ailleurs venu du monde du cinéma, avec l'affaire Harvey Weinstein aux États-Unis. Est-ce que vous sentez que les relations entre les femmes et les hommes, notamment sur les plateaux de tournage, vous qui tournez beaucoup, est-ce que vous sentez que cette relation-là est en train d'évoluer, est en train de changer, ou bien pas du tout ?
J'ai pas eu cette sensation, non. Pourtant, j'ai beaucoup tourné. Non. Je crois qu'il doit y avoir quelque chose qui se modifie. Mais je crois qu'il y a aussi chez les filles, les femmes avec qui je travaille, que ce soit les réalisatrices ou les comédiennes, Très souvent, j'entends trop, c'est trop, quoi. Ça va maintenant, ouais. Le MeToo et tout, ça, bon, ça suffit, quoi. C'est bon, un peu, c'est bien que ça existe, que ça avance, mais le radicalisme et le je veux dire, c'est
vous pensez qu'on en a trop fait à un moment donné autour
ça
de
ça devient ridicule, ça devient grotesque. En même temps, c'est toujours pareil. En même temps, ouais. En même temps, bon, bah, ça fait avancer les causes, ça fait avancer. Mais j'aime pas quand c'est too much. J'aime pas le. L'agressivité.
Quand on jette l'opprobre sur tous les hommes, par exemple.
Non, mais j'aime pas quand c'est toujours conflictuel. Quoi. Peut-être qu'il faut en passer par là pour obtenir des salaires, des choses comme ça, un équilibre dans tout ça. Mais je crois que petit à petit, on y vient. Les femmes occupent des postes maintenant, je veux dire, des importants, plus que ça. Ils sont. Voilà. Donc, dans l'intime, je crois que ça change pas grand-chose. Les rapports hommes-femmes sont toujours les mêmes. Dans le social, ils ont pris la place. Ils peuvent encore le prendre un peu plus, peut-être. Mais je ne pense pas que l'agressivité, ou l'intolérance, ou le sexisme, ou le racisme, d'une certaine manière, puisse arranger les choses. Non, non. Il peut y avoir un retour de bâton. Il faut se méfier. Il faut que vous méfiez, les filles.
Méfiez-vous. Allez, on termine ces infos médias avec une information qui est tombée ce matin. On connaît le nom du deuxième invité de 20h22 sur France 2.
Oui, vous savez, c'est le nouveau rendez-vous du JT de la 2 pour la présidentielle. Une interview menée par Anne-Sophie Lapix, Mohamed Bouafsi et Nathalie Saint-Cricq, la chef du service politique. Eh bien, après Xavier Bertrand qui avait inauguré la séquence il y a quelques semaines, c'est au tour de Michel Barnier, autre candidat de la candidaire à droite, de passer sur le grill. Donc c'est à suivre ce soir à 20h22, bien sûr, sur France 2.
Voilà, et pas Michel Bernier, hein, de la stagiaire sur France 3.
Non,
j'ai senti que votre langue avait fouché. J'ai senti.
On aurait pu dire à 20h02 sur France 22.
À 20h02 sur France 22, c'est vrai.
Et oui. Non, c'est bon, ouf.
Vous vous intéressez à la politique, vous, Patrick Chenet?
Oui, comme disait l'autre, si tu ne t'intéresses pas à la politique s'intéresse à toi.
C'est vrai, et c'est rarement bon quand ça va dans ce sens-là, effectivement. Ouais. Et ça vous passionne, tout ce qui se dit en ce moment autour de la campagne présidentielle? Justement l'arrivée aussi, dont on parlera tout à l'heure, parce que c'est aussi quelque part en lien avec votre téléfilm,
oui.
D'Éric Zemmour dans cette campagne. Est-ce que ça vous passionne?
Non, mais je crois que j'ai l'impression qu'on assiste à une télé-réalité. Alors autant les télé-réalités avec les bimbos, Marseille...
Les Marseillais, oui.
Marseillais, tout ça, on s'en fout un peu, bon, ça peut intéresser des gens. Hein, pourquoi
Fabrice
pas.
Lucchini est fan.
Ah bon?
Oui, des Marseillais.
Ça m'étonne pas. et voilà, alors donc, on est, bon, je crois que, oui, il y a une espèce de jeu de concurrence, de bagarre, qui fait que les gens aiment bien la bagarre, quoi, si vous voulez que je vous dise. Donc, ils se bagarrent, les mecs. La politique, c'est ça aussi. La politique, c'est des enjeux, c'est aussi un angle de spectacle. Ouais. Les gens parlent, existent, assènent des choses, se bagarrent entre eux, et ça fait du spectacle.
C'est devenu une sorte de télé-réalité pour vous, la politique, c'est un peu ce que
Il y a un peu quelque chose comme ça. Il faut être bon à la télé, hein, faut bien passer. Ça fait de l'audience, la preuve, ça faisait pas d'audience, il n'y aurait pas 2 heures, quelle heure vous dites?
Non, c'est pas 2 heures, c'est une dizaine de minutes,
20h12.
À 20h22.
C'est à 20h22
pour le 2022.
À 22h22.
Ouais. Après, ceci dit, c'est vrai que ça n'est pas énorme.
Donc, tout, voilà, et c'est les invités politiques se succèdent sur toutes les chaînes le matin, les chaînes d'infos, etc. Donc, ça veut dire que les invités politiques et puis le public les guette, je pense, pour voir le faux pas, voir la petite phrase qui tue, etc. Donc, c'est du bise.
Et tout ça amplifié par les réseaux sociaux, d'ailleurs, dont vous êtes absent, d'ailleurs. Je ne sais pas.
Si, je suis sur Twitter, mais
Vous n'y allez jamais.
Je regarde, j'écoute, je lis de temps en temps quand je m'emmerde trop.
Vous regardez les commentaires autour de ce qui se dit sur vos fictions ou sur votre...
Non, je ne regarde pas.
Vous n'êtes pas du tout attentif aux réseaux sociaux?
Non, ça ne m'intéresse pas. Bon, écoutez, c'est pas plus ça bien. M'intéresse pas, mais non, mais je lis quand même, je suis sur Twitter.
Ouais.
Mais quand je dis ça ne m'intéresse pas, je lis sur Twitter des petits trucs et au bout de 30 secondes, j'en ai marre. Mais je suis sur Twitter quand même.
Vous avez raison.
C'est ma femme qui m'a mis sur Twitter.
Ouh là là, dans ce cas-là, restez sur Twitter. Faut pas provoquer de disputes conjugales.
Ouais, non.
Allez, on poursuit cette interview avec Laval, le collaborateur. C'est la fiction diffusée ce soir sur France 3. On en parle tout de suite dans l'interview du Buzz TV. Laval, le collaborateur, je le rappelle, c'est le titre du téléfilm que France 3 diffuse ce mardi en prime time. Donc vous, vous y interprétez Pierre Laval, l'un des principaux instigateurs de la collaboration avec les nazis. Déjà, pour les plus jeunes qui nous regardent, et je sais qu'ils sont nombreux, qui est Pierre Laval? Qui est cet homme qui sera au centre de la fiction ce soir sur France 3?
Eh bien, Pierre Laval, c'est un homme politique d'envergure, majeur, hein, qui a traversé la Troisième République avec des postes très importants. Il était ministre de l'Intérieur, des affaires étrangères, il était Premier ministre, il était au départ à l'ultra-gauche, il est devenu anarcho-syndicaliste, et puis il était surtout pacifiste, c'est-à-dire il voulait être contre toutes les guerres, et déjà il était pour la collaboration avec l'Allemagne au sortir de la Première Guerre mondiale, il était pour le rapprochement avec l'Allemagne. Donc si vous voulez, le mot collaboration, c'est lui qui l'a inventé. Il disait que la seule façon de s'en sortir après la débâcle, c'est de trouver une entente avec l'Allemagne, l'Allemagne nazie, donc c'est pas rien. Et il disait qu'il allait les rouler dans la farine. C'est-à-dire qu'il connaissait ses qualités de manœuvrier de couloir. C'était un type rusé, un type malin. En même temps, parfois, il avait une espèce d'innocence, c'est ce que disent les historiens, moi, je n'étais pas là, de conviction. Il pouvait se mettre dans des colères terribles. Enfin, c'était un amalgame de plein de sentiments différents, contradictoires, ce que je disais tout à l'heure. Et voilà, donc, il a décidé d'organiser la collaboration et le rapprochement entre Pétain et Hitler, tout ça. Donc, pour essayer de faire quelque chose avec l'Allemagne. Le truc, finalement, qui lui a été reproché violemment aussi, c'est d'avoir déclaré « je souhaite la victoire de l'Allemagne ». Oui. Ça, je pense qu'il il y avait une sincérité dans ses convictions. Je pense qu'il était... il pensait que c'était la seule façon de s'en sortir et de redonner à la France des couleurs et de repartir, quoi, de repartir. Alors pour ça, il allait au-delà de ce que demandaient les nazis. C'est ça aussi qui était relativement monstrueux, enfin même pas relativement.
Notamment sur la déportation des enfants juifs.
Enfants juifs, la rave du Veldiv, même il a beau dire que c'était les juifs étrangers, pas les juifs français. Les juifs français, non. Tout ce qui est juif, pas juif, français les protégeait. C'était ce qu'il disait, qu'il n'arrêtait pas de dire pendant son procès, etc., etc. Mais bon, la milice, c'est pas lui, il dit que c'est pas lui, mais il a laissé faire, il a nommé Darlan, qui a inventé la milice, tout, quoi. Oui.
Mais c'est vrai que je vous pose cette question, Patrick Chenet, sur qui est Pierre Laval, parce que, je vais vous faire un aveu, je ne connaissais pas Pierre Laval, je ne l'ai pas appris à l'école, à aucun moment j'ai entendu son nom à l'école. Est-ce que vous regrettez que cette partie de l'histoire de France soit un petit peu dissimulée, j'ai envie de dire, dans les programmes scolaires, parce que lorsqu'on vous parle de la Seconde Guerre mondiale, on vous parle vaguement...
C'est parce que Laval, ça a été considéré comme le mal absolu, le salaud national. C'était le salaud national. Donc il y a une espèce d'omerta sur lui. Pétain, qui manipulait. Pétain, c'était un vieux monsieur qui était très antisémite. Hein. Mais il le disait, il le manipulait. C'était comme une stature du commandeur qui avait énormément de... C'était une icône, parce que c'était le vainqueur de la guerre 14, de Verdun, etc. Donc, voilà. Et d'ailleurs, ce qu'on leur reprochait à Pétain aussi, c'est s'être servi de son prestige pour pouvoir emmener la France là. Oui, ce qui est impardonnable, c'est collaborer avec l'ennemi. Ça, c'est un truc qui passe pas. Et avoir pris toutes les moyens de cette collaboration pour donner des gages à l'ennemi. Et quand on lui reprochait ça, il disait « Oui, mais... c'est pour pouvoir leur donner confiance et après faire ce que je voulais. Voilà. C'est pour pouvoir prouver aux nazis, ou à l'Allemagne, au Troisième Reich, que j'étais de bonne foi, mais après je pouvais m'en sortir, je pouvais obtenir des choses que je n'aurais jamais obtenues sans. Donc c'est un type, si vous voulez, c'est très complexe la vie de Laval. Mais on n'en parle pas parce que Laval, c'est le déshonneur. C'est tout ce que la France ne veut pas voir, la collaboration. Cacher ce 5, je ne saurais voir. Voilà.
Sarah, on va du côté des internautes, sur la page YouTube.
Parce que nous sommes en direct sur la page YouTube de TV Magazine et j'ai cette première question de Vincent. Quel autre personnage historique rêvez-vous d'incarner?
J'ai déjà incarné De Gaulle, moi.
Et ouais, Charles de Gaulle, ouais.
Non, je vous ai compris, sur France 2, c'était en 2010.
Exactement.
Crois. C'est ça.
2010.
Et entre incarner un résistant, incarner un collabo, vous préférez quoi?
Mais vous savez que Laval avait une espèce d'admiration pour de Gaulle.
Oui.
Il disait, d'ailleurs, il en parle dans le film, il disait quand même... Un général qui fait ce qu'il fait, qui prend cette position-là, ça a de la gueule. Ça a vraiment de la gueule. Ça ne va pas marcher, c'est nous. C'est notre politique qui va marcher, qui va porter ses fruits. Lui, il va dans le mur. Mais quand même, il a de la gueule. Et De Gaulle disait de lui, il a supporté l'insupportable, il a soutenu l'insoutenable, mais il a aimé la France. Laissons-lui au moins ça.
Donc, pour répondre à la question de l'internaute, De Gaulle, ça a été le Graal pour vous ?
Oui, il y a un autre personnage qui...
J'aurais bien aimé jouer Napoléon, mais physiquement, ça ne collait
pas.
Oh, ça passe.
Non, j'ai joué... un autre personnage, j'ai joué Don Quichotte, mais c'est un personnage de la fiction. Jacques le Fataliste, un autre personnage historique. Non, je crois que j'ai à peu près fait le tour, mais c'est intéressant de jouer des personnages qui sont dans la mémoire historique des gens, dans la mémoire... personnages qui ont une importance dans la marche du monde ou de la France. C'est toujours très excitant.
Alors justement, dans Laval, le collaborateur, Pierre Laval est présenté comme un véritable patriote, au fond quelqu'un qui souhaitait le bien du pays. On le voit aussi longuement se défendre lors de son procès, lors des discussions avec son avocat sur les crimes qui lui sont reprochés. Est-ce que vous n'avez pas peur que l'on vous reproche de réhabiliter un petit peu la figure de Pierre Laval, de le rendre un peu sympathique aussi, on le voit, entouré d'enfants, de sa famille.
On n'a pas... Je crois qu'on n'est pas tombé dans le piège, parce qu'évidemment, à partir du moment où on s'intéresse à la vie de quelqu'un, la vie de quelqu'un est complexe, faite de contradictions, de plein d'étages différents. D'autant plus que Laval, c'était un politique qui savait louvoyer, qui savait manœuvrer. C'est ce que je disais tout à l'heure, il était sympathique. Il y a eu un article dans Télérama d'un journaliste qui n'avait pas fait son boulot, à mon avis, puisqu'il disait c'est une erreur de casting, parce que Patrick Chenet est sympathique. Mais qui dit que pas. Mais je veux dire, Laval avait des sympathies énormes. Il exerçait un magnétisme, une séduction sur les gens. Et c'était pas un monstre, un psychopathe assoiffé de sang. C'était un type. Il pouvait avoir des. Je vous le disais tout à l'heure, il pouvait être mégalo, avoir des colères. C'était un politique qui nous voyait au milieu des trucs. Et non, on n'a pas réhabilité. On a essayé de. C'est toujours touchant de voir un type qui va être condamné à mort, qui le sait, qui va être exécuté.
Alors, au début, il ne le sait pas toujours, d'ailleurs.
Il a vraiment l'espoir
de s'en sortir.
Absolument.
Au terme du procès.
Et pendant le procès, il découvre que... Il ne va pas y arriver. Les jurys l'insultent quand même. Les jurys, ceux qui doivent juger de sa culpabilité ou pas, le traite de salaud, de douze
balles. C'est ce que dénonce aussi la fiction, justement.
Etc. Ben oui, parce que c'est la réalité historique. Il n'empêche que ce qu'il a fait... La politique qu'il a fait est inacceptable aux yeux de l'univers. C'est un truc injouable. C'était injouable. Il pensait que lui, c'était la seule manière. Mais vous savez, les hommes politiques ont des responsabilités énormes. Et on ne juge pas les hommes sur ce qu'ils sont, mais sur ce qu'ils font. Laval, c'était un bon père de famille, c'était un mari aimant, il aimait bien boire des coups avec ses copains. Il pouvait exercer une séduction, comme il pouvait aussi, on lui dit, être vulgaire. On dit qu'il pouvait être vulgaire, qu'il pouvait être dérangeant, qu'il pouvait être... Et en même temps, il pouvait élever le débat. D'autres disent qu'il pouvait le ramener vers le bas. Vous savez, c'est... Donc, quand on s'intéresse à la vie d'un homme, on la complexifie. Et c'est ça qui devient intéressant, c'est que ça devient une tragédie.
Une dernière question avant de repasser du côté des internautes. C'est vrai que quand on regarde cette fiction, on se pose cette question que l'on s'est déjà plus ou moins secrètement posée. Pendant la Seconde Guerre mondiale, de quel côté on aurait été ? Est-ce qu'on aurait été plutôt du côté de la résistance ou plutôt du côté des collabos ? Est-ce que vous êtes déjà posé cette question-là ? Et est-ce que vous avez trouvé une réponse plus ou moins juste à cette réflexion ?
Moi, la question... Oui, parce que mon père était dans la résistance. Donc, je ne me serais pas posé la question. Je pense que oui, le choix était simple.
Ouais.
C'était la résistance et rien d'autre. Alors, la collaboration, je pense qu'il y a des gens de bonne foi qui se sont dit que c'est le seul moyen de s'en sortir. Et puis voilà, et puis ce sont les exactions de toutes parts, c'est la boucherie de la guerre, c'est l'absurdité totale de la guerre. Et Laval était un pacifiste, je le répète. Il était contre toutes les guerres, et le fait de voir ressurgir la guerre, c'était contre toutes ses convictions et sa philosophie.
Sarah, on retourne du côté des internautes.
Oui, et j'ai Sandrine qui n'est pas sans savoir que vous avez changé de nom, enfin que votre nom de scène, Chenet, n'est pas votre vrai patronyme.
Non, je m'appelle Luis Mariano.
C'est pas vrai.
Vous chantez quelque chose.
Allons-y.
Ça va être repris, ça, vous savez, si vous chantez Luis Mariano.
Alors, pour quelle raison souhaite savoir Sandrine?
C'est parce que la première fois que j'ai été affiché, on a fait une erreur sur les affiches, on a rajouté un S. Mon vrai nom, c'est Chenet, c'est Chenis. Et on a rajouté Chenis. Je trouvais ça pas mal, je l'ai essayé.
Ah, donc c'est parti d'une erreur, en fait.
Une erreur.
Ah ouais, c'est drôle. Okay.
Et c'était à quelle occasion, une pièce de théâtre?
Ah oui, c'est une pièce de théâtre. C'était encore au conservatoire. Ça s'appelait La Convention de Belzébir. C'est la dernière pièce de Marcel Aimé.
Et vous n'avez jamais voulu rétablir, finalement, le vrai nom de famille?
Non, je trouvais ça... Non. Non, je trouve ça bien.
Bah oui, ça vous va bien. Patrick Chenet.
Ça change pas énormément quand même.
Non, ça va.
Comme si j'étais passé de.
Mais du coup, on prononce
Chenet
comment
à...
Ah oui, c'est Chenet, votre vrai nom, et là, c'est Chenet, c'est ça?
Non, parce que mon vrai nom pouvait aussi, à une époque, y avoir un accent circonflexe sur le E.
Ah
donc
oui.
C'est Chenet.
Oui, à l'oreille, ça ne change pas grand-chose.
Ça ne change rien du tout.
Ouais.
On va revenir au téléfilm La Valle.
Oui, parce qu'on peut ne pas faire 20 minutes là-dessus non plus.
Non,
mais c'est intéressant ceci.
D'accord.
C'est
peut-être la première
anecdote.
Fois que vous le révélez d'ailleurs.
Bah,
je
ne
sais
oui.
pas. Alors justement, le téléfilm, on en parlait vaguement tout à l'heure, oui. Il résonne particulièrement avec l'actualité du moment parce que Éric Zemmour, pour ne citer que lui, a déclaré il y a encore quelques semaines que Vichy avait protégé les Juifs français. Lorsque vous entendez ce genre de déclaration, quel sentiment vous en
Écoutez, c'est compliqué parce que si je me penche sur l'histoire de Laval et sur ce qui est dit dans le film, à plusieurs reprises, en tout cas à deux reprises, il dit juif, pas juif, je m'en fous, les Français. Il le dit, il le clame, et j'ai lu un peu ce qu'on dit sur lui, c'est-à-dire qu'il a essayé de protéger les Français, dont les Juifs. Et que les Juifs étrangers, ce qui est aussi une monstruosité, parce qu'il lâchait en pâture tous les gens qui n'étaient pas français. Il les donnait aux nazis, allez-y, servez-vous, quoi. Enfin, c'est affreux. Mais il y avait, je crois, d'après ce que j'ai lu, d'après le scénario, d'après ce qu'on m'a dit, une volonté aveugle, parfois absurde, de vouloir protéger de toute façon les Français. Quitte à sacrifier d'autres parties de la population. Voilà.
Allez, Sarah, une dernière question des internautes.
Oui, une dernière, celle sur le spectacle des Enfoirés. Il paraît que vous y avez participé, selon Nicolas, oui. qui est sur la page, une année, en 2013. Pourquoi vous n'y êtes plus et quels souvenirs vous en gardez?
J'ai gardé un très bon souvenir. Pourquoi j'y suis plus? J'en sais rien.
Il vous rappelle plus, non?
oui, non, c'est ça.
C'est vrai?
Non, je me suis un peu accroché avec Goldman. Non, mais c'est pour rien, c'est comme ça. J'ai gardé un très bon souvenir, je vais vous dire pourquoi. Parce que c'était en direct, il y a 20 000 personnes à Bercy, et j'ai jamais eu aussi peu le trac de ma vie. Pourquoi? Parce que je ne suis pas chanteur. Donc j'ai le droit de me planter, je m'en fous.
Pression.
Mais justement,
et
pas
en
peur
plus, ben non. Et en plus, on chante souvent avec d'autres.
Oui.
On a des prompteurs, donc on peut se contenter de faire.
faire un playback.
Tranquille Bill. Sauf que j'avais une chanson avec Thomas Dutronc, là on a un peu répété, mais même si j'étais un peu à côté, franchement je trouvais ça très plaisant, il y a une bonne ambiance, c'est très sympa. Le milieu du musical, la chanson sur les amis chanteurs et tout, qui sont. C'est plutôt des gens agréables et de bonne compagnie.
Et c'est avec Jean-Jacques Goldman.
Et qui chantent bien.
Il y a eu une petite brouille, c'est ça, avec Jean-Jacques Goldman?
Pas une brouille, mais on s'est accroché sur un truc. Je voulais, sur un texte, le faire d'une certaine manière. Lui me disait non, il faut le faire comme ça. Je disais non, je ne suis pas d'accord.
Ouais.
Voilà, donc bon, c'est pas très grave. Hein.
Non.
Mais demain, si l'équipe.
On n'est pas venu aux mains.
Heureusement, si l'équipe.
Quoi que.
Si l'équipe actuelle vous propose de réintégrer la troupe, vous y allez?
Ah oui. Ah ben, j'aime bien. Je vous dis, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire que. C'est une aventure de plus, quoi. Ce métier est une aventure, dans tous les sens du terme. Et faire les Enfoirés, chanter avec des chanteurs qu'on aime bien devant des millions de gens, c'est une aventure, oui.
Mais justement, quand on regarde toute votre carrière, on a l'impression que vous avez vécu toutes les aventures de votre métier de comédien. Oui. Vous avez fait du théâtre, de la télévision, vous avez fait du cinéma.
J'ai réalisé des films.
Vous avez réalisé des films, vous avez été scénariste. Qu'est-ce qui manque encore à votre carrière pour qu'elle soit accomplie à 100%, si j'ose dire, ou est-ce qu'elle l'est peut-être déjà, d'ailleurs?
Il me manque la douce insouciance le soir au pied du Vésuve.
Oh, c'est beau, ça.
Les dîners libres et joyeux à la lueur des torches.
C'est vrai.
Joli.
C'est joli, effectivement. C'est bon, écoutez, ce sera la dernière phrase avant notre dernière rubrique qui s'appelle « En toute franchise ». Alors, en toute franchise, Patrick, c'est facile, on vous pose une série de questions, il faut que vous y répondiez avec le plus de cœur possible.
Je peux y répondre comme Laval.
Oui, vous pouvez, effectivement. Vous pouvez. Quel est le plus beau souvenir de votre carrière?
Oh là là. Il y a un souvenir dont je me souviens, c'est quand j'ai eu mon premier prix de conservatoire. Mes parents étaient dans la salle, n'en revenaient pas, j'arrivais de province et j'ai un premier prix. Vous savez, à l'époque, le conservatoire, c'est la première page du Figaro, par exemple. Oui. On était invités au journal télévisé le soir, non pas à 20h22, mais enfin...
20h21, quoi.
Voilà, c'était un peu comme les Césars. C'était un événement parisien annuel où tous les gens se précipitaient. Maintenant, c'est fini, il n'y a plus de concours. Mais enfin, voilà. Donc, je commençais, j'avais 20 ans, j'étais ébloui par tout ça, quoi, par la vie parisienne, tout simplement.
Et quel est votre pire souvenir?
Dans votre carrière, oui.
Pire souvenir... J'en ai un quand même qui reste. Je faisais un truc tout seul, un seul en scène, on appelle ça, que j'avais mis en scène. Et j'avais mis des micros HF pour être en direct avec l'âme. C'est un grand théâtre. Sauf que le micro HF est tombé en panne au bout de 10 minutes. Je ne m'en suis pas rendu compte. J'ai continué à parler. Je sentais que le public, vous savez, on le sent, le public vous échappe. Il n'écoute pas, change de fesses. Là, ça, je dis, putain, il n'écoute pas. Toi. Et j'avais encore 1h15 derrière, tout seul.
Vous dites quel fiasco.
Là, j'ai souffert. Hein.
Voilà. Vous avez ramé.
Mais vous n'avez pas changé les piles à un moment donné que...
Je ne me suis pas rendu compte.
Ah non. Quel moment de solitude. Quelle manie ou toc avez-vous avant d'entrer en plateau ou sur scène? Est-ce que vous avez un petit rituel qui vous est propre?
Oui, depuis quelques années, j'embrasse une photo.
Vous embrassez la photo? De qui?
De mon fils.
De votre fils, qui a disparu.
Oui. Ouais.
Et ça vous porte, vous pouvez pas le faire sans, enfin vous pouvez pas monter sur scène sans ça.
Non, je le fais, parfois j'oublie, j'ai oublié, mais oui je le fais, j'ai la photo sur moi.
Et vous le faites systématiquement.
Rituel, ouais.
Si vous n'aviez pas été comédien, quel métier auriez-vous exercé?
J'aurais bien aimé faire de la médecine.
D'accord, quelle spécialité?
La tête.
La
tête. Je ne sais pas, mais soigner les gens, m'intéresser à la santé des gens, ça m'a intéressé. Ouais, je pense que ça m'aurait intéressé. Ouais.
Bon, vous savez, Patrick, que l'élection présidentielle se tient dans quelques mois. Admettons, vous arrivez à la tête de l'Élysée, vous êtes le nouveau président de la République. Quelle est la première mesure que vous prenez?
Oh là là, alors là.
Question difficile, hein.
Question difficile, j'aurais pu y réfléchir si vous me l'aviez posé.
Ouais, j'aurais dû vous prévenir avant, je m'en excuse.
Alors là, vraiment, j'étais pris en tête. Que la première mesure.
Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous tire à cœur? Un engagement particulier que vous avez?
Je vais réfléchir, je reviendrai la semaine prochaine,
écoutez,
je vais prendre des notes.
N'hésitez pas, on vous invite la semaine prochaine. Vous nous envoyez un texto, on vous donnera la réponse.
Peut-être la gratuité des transports.
Ah oui, effectivement. Ah, c'est aussi une mesure anti-pollution quelque part. Hein. C'est dans l'actualité.
La gratuité des transports.
Quel est l'objet le plus précieux que vous possédez? Sentimentalement, on entend aussi.
Ah bah après, si vous voulez nous dire que vous avez une voiture de luxe, vous pouvez aussi.
Moi, j'ai pas de voiture du tout. C'est fini. À Paris, on n'a plus de voiture. C'est fini. L'objet. Oh là là, je sèche sur les questions.
Non, mais après.
Mais quel est l'objet auquel je tiens le plus?
Oui.
Vous savez, alors je suis pas un homme d'objets. J'aime pas les objets. Je collectionne pas. Je perds des trucs. Même des trucs ont une certaine importance, des souvenirs de. Si quand même, enfin ça c'est ma femme, j'ai César, Molière que j'ai eu,
elle les expose.
Oui, je les garde. Je les avais mis au fond d'un truc, je ne savais même plus où ils étaient. C'est comme ça, je ne suis pas attaché à ça. Mais ma femme les a mis, on dit, faut pas attendre.
Ils sont où, les César, les Molières?
Ils sont dans le salon, tout le monde peut les voir.
Ah, c'est bien.
Et d'ailleurs, quand il ne les voit pas, j'en dis, vous avez vu, regardez.
Vous avez raison, pour ne pas passer à côté. Et enfin, une dernière question. Quelle est la chanson que vous écoutez en boucle en ce moment? Est-ce qu'il y en a une déjà?
Oui, En pansement, parce que j'aime bien le sud de Nino Ferrer.
Ah oui, ça c'est intemporel. Mmh.
J'adore cette chanson, il y en a plein. Il y a aussi Yesterday
des Beatles.
Beatles. J'adore cette chanson, c'est une des plus belles chansons du monde. Et voilà.
Bah écoutez, on écoutera ça juste après cette interview, parce qu'effectivement, vous avez de bons goûts musicaux, Patrick Chenet. Merci encore d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que l'on vous retrouve ce soir, donc sur France 3, c'est dans Laval, le collaborateur. Merci encore d'avoir accepté notre
invitation. C'est un film de Laurent Hennemann, qui est un excellent metteur en scène, qui a fait un film formidable, je trouve.
Effectivement, c'est effectivement à ne pas manquer. Merci beaucoup, Sarah, pour les questions des internautes. Et on se retrouve demain avec un humoriste qui officie sur RTL, dans la matinale chaque matin, et puis également chaque samedi, aux côtés de Laurent Ruquier, dans On est en direct sur France 2. Il s'agit de Philippe Cavrivière qui sera avec nous demain sur ce plateau. On attendra toutes vos questions, bien sûr, comme chaque matin. En attendant, on vous souhaite une excellente journée et à demain pour un nouveau Buzz TV.